Honoré de Balzac. Illusion perdue. XLIII. Que font-ils à cette heure ? Disait Boniface. Le grand Cointet se promenait sur la place du Mûrier avec Cérizet, en examinant les ombres de la femme et du mari qui se dessinaient sur les rideaux de mousseline. Car il venait causer tous les jours à minuit avec Cérizet, chargé de surveiller les moindres démarches de son ancien patron.
Il lui montre sans doute les papiers qu'il a fabriqués ce matin, répondit Cérizet.
« De quelle substance s'est-il servi ? » demanda le fabricant de papier.
Oh, « Impossible de le deviner, » répondit Cérizet. « J'ai troué le toit, j'ai grimpé dessus, et j'ai vu mon naïf pendant la nuit dernière, faisant bouillir sa pâte dans la bassine en cuivre. J'ai eu beau examiner ses approvisionnements amoncelés dans un coin, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que les matières premières ressemblent à des tas de filasses. »
« N'allez pas plus loin, » dit Boniface Cointet d'une voix pateline à son espion. « Ce serait improbe. Madame Séchard vous proposera de renouveler votre bail de l'exploitation de l'imprimerie. Dites que vous voulez vous faire imprimeur. Offrez la moitié de ce que valent le brevet et le matériel, et si l'on y consentait, venez me trouver. En tout cas, traînez en longueur. « Ils sont sans argent. »«
Sans un sou !» dit Cérizet.
« Sans un sou !» répéta le grand Cointet. « Ils sont à moi !» se dit-il. La maison Métivier et la maison Cointet-Frères joignaient la qualité de banquier à leur métier de commissionnaire en papeterie et de papetier imprimeur, titre pour lequel ils se gardaient bien d'ailleurs, de payer patente. Le fisc n'a pas encore trouvé le moyen de contrôler les affaires commerciales au point de forcer tous ceux qui font subrepticement la banque à prendre patente de banquier, laquelle, à Paris par exemple, coûte 500 francs. Mais les frères Cointet et Métivier, pour être ce qu'on appelle à la bourse des marrons, n'en remuaient pas moins entre eux quelques centaines de mille francs par trimestre sur les places de Paris, de Bordeaux et d'Angoulême. Or, dans la soirée même, la maison Cointet-Frères avait reçu de Paris les 3 000 francs d'effets faux fabriqués par Lucien. Le grand Cointet avait aussitôt bâti sur cette dette une formidable machine dirigée, comme on va le voir, contre le patient et pauvre inventeur. Le lendemain, à 7 heures du matin, Boniface Cointet se promenait le long de la prise d'eau qui alimentait sa vaste papeterie et dont le bruit couvrait celui des paroles. Il y attendait un jeune homme, âgé de 29 ans, depuis 6 semaines avoué près le tribunal de première instance d'Angoulême et nommé Pierre Petit-Clos. « Vous étiez au collège d'Angoulême en même temps que David Séchard, » dit le grand Cointet en saluant le jeune avoué qui se gardait bien de manquer à l'appel du riche fabricant. « Oui, monsieur, » répondit Petit-Clos en se mettant au pas du grand Cointet. « Avez-vous renouvelé connaissance ? Oh, nous nous sommes rencontrés 2 fois, tout au plus, depuis son retour. Il ne pouvait pas en être autrement. » J'étais enfoui dans l'étude ou au palais les jours ordinaires, et le dimanche et les jours de fête, je travaillais à compléter mon instruction, car j'attendais tout de moi-même. » Le grand Cointet hocha la tête en signe d'approbation. « Quand David et moi nous nous sommes revus, il m'a demandé ce que je devenais. Je lui ai dit qu'après avoir fait mon droit à Poitiers, j'étais devenu premier clerc de maître Olivet, et que j'espérais un jour ou l'autre traité de cette charge. Je connaissais beaucoup plus Lucien Chardon, qui se fait maintenant appeler de Rubempré, l'amant de Madame de Bargeton, un autre grand poète, enfin, le beau-frère de David Séchard. Vous pouvez alors aller annoncer à David votre nomination et lui offrir vos services, dit le grand Cointet.
Oh, cela ne se fait pas, répondit le jeune avoué.
Il n'a jamais eu de procès, il n'a pas d'avoué.
Cela peut se faire, répondit Cointet, qui toisait à l'abri de ses lunettes le petit avoué.
Fils d'un tailleur de L'Houmeau, dédaigné par ses camarades de collège, Pierre Petitclot paraissait avoir une certaine portion de fiel extravasée dans le sang. Son visage offrait une de ces colorations à teintes sales et brouillées qui accusent d'anciennes maladies, l'éveil de la misère et presque toujours des sentiments mauvais. Le style familier de la conversation fournit une expression qui peut peindre ce garçon en deux mots. Il était cassant et pointu. Sa voix fêlée s'harmoniait à l'aigreur de sa face, à son air grêle et à la couleur indécise de son œil de pie. L'œil de pie est, suivant une observation de Napoléon, un indice d'improbité.
« Regardez un tel, » disait-il à Las Cazes à Sainte-Hélène, en lui parlant d'un de ses confidents qu'il fut forcé de renvoyer pour cause de malversation. « Je ne sais pas comment j'ai pu m'y tromper si longtemps. Il a l'œil d'une pie. »
Aussi, quand le grand Cointet eut bien examiné ce petit avoué maigrelé, piqué de petites véroles, à cheveux rares, dont le front et le crâne se confondaient déjà, quand il le vit, faisant déjà poser à sa délicatesse le poing sur la hanche, se dit-il « Voilà mon homme !» En effet, Petitclot, abreuvé de dédain, dévoré par une corrosive envie de parvenir, avait eu l'audace, quoique sans fortune, d'acheter la charge de son patron 30 000 francs, en comptant sur un mariage pour se libérer. Et, suivant l'usage, il comptait sur son patron pour lui trouver une femme, car le prédécesseur a toujours intérêt à marier son successeur pour se faire payer sa charge. Petitclot comptait encore plus sur lui-même, car il ne manquait pas d'une certaine supériorité, rare en province, mais dont le principe était dans sa haine. Grande haine, grands efforts. Il se trouve une grande différence entre les avoués de Paris et les avoués de province. Et le grand Cointet était trop habile pour ne pas mettre à profit les petites passions auxquelles obéissent ces petits avoués. À Paris, un avoué remarquable, et il y en a beaucoup, comporte un peu des qualités qui distinguent le diplomate, le nombre des affaires, la grandeur des intérêts, l'étendue des questions qui lui sont confiées, le dispense de voir dans la procédure un moyen de fortune. Arme offensive ou défensive, la procédure n'est plus pour lui, comme autrefois, un objet de lucre. En province, au contraire, les avoués cultivent ce qu'on appelle dans les études de Paris la broutille, cette foule de petits actes qui surcharge les mémoires de frais et consomme du papier timbré. Ces bagatelles occupent l'avoué de province. Il voit des frais à faire là où l'avoué de Paris ne se préoccupe que des honoraires. L'honoraire est ce que le client doit, en sus des frais, à son avoué, pour la conduite plus ou moins habile de son affaire. Le fisc est pour moitié dans les frais, tandis que les honoraires sont tout entiers pour l'avoué. Disons-le hardiment, les honoraires payés sont rarement en harmonie avec les honoraires demandés et dus pour les services que rend un bon avoué. Les avoués, les médecins et les avocats de Paris sont, comme les courtisanes avec leurs amants d'occasion, excessivement en garde contre la reconnaissance de leurs clients. Le client, avant et après l'affaire, pourrait faire deux admirables tableaux de genre, digne de Meissonnier, et qui serait sans doute enchéri par des avoués honoraires. Il existe entre l'avoué de Paris et l'avoué de province une autre différence. L'avoué de Paris plaide rarement. Il parle quelquefois au tribunal dans les référés. Mais en 1822, dans la plupart des départements, depuis l'avocat a pullulé, les avoués étaient avocats et plaidaient eux-mêmes leur cause. De cette double vie, il résulte un double travail qui donne à l'avoué de province les vices intellectuels de l'avocat, sans lui ôter les pesantes obligations de l'avoué. L'avoué de province devient bavard et perd cette lucidité de jugement si nécessaire à la conduite des affaires. En se dédoublant ainsi, un homme supérieur trouve souvent en lui-même deux hommes médiocres. À Paris, l'avoué ne se dépensant point en parole au tribunal, ne plaidant pas souvent le pour et le contre, peut conserver de la rectitude dans les idées. S'il dispose la balistique du droit, s'il fouille dans l'arsenal des moyens que présentent les contradictions de la jurisprudence, il garde sa conviction sur l'affaire, à laquelle il s'efforce de préparer un triomphe. En un mot, la pensée grise beaucoup moins que la parole. À force de parler, un homme finit par croire à ce qu'il dit, tandis qu'on peut agir contre sa pensée sans la vicier et faire gagner un mauvais procès sans soutenir qu'il est bon, comme le fait l'avocat plaidant. Aussi, le vieil avoué de Paris peut-il faire beaucoup mieux qu'un vieil avocat, un bon juge? Un avoué de province a donc bien des raisons d'être un homme médiocre. Il épouse de petites passions, il mène de petites affaires, il vit en faisant des frais, il abuse du code de procédure et il plaide. En un mot, il a beaucoup d'infirmité. Aussi, quand il se rencontre parmi les avoués de province un homme remarquable, est-il vraiment supérieur?
Je croyais, monsieur, que vous m'aviez mandé pour vos affaires, répondit Petit Claud, en faisant de cette observation une épigramme par le regard qu'il lança sur les impénétrables lunettes du grand Cointet.
Pas d'ambage, répliqua Boniface Cointet. Écoutez-moi. Après ce mot gros de confidence, Cointet alla s'asseoir sur un banc en invitant Petit Claud à l'imiter. Quand M. du Hautoy passa par Angoulême en 1804 pour aller à Valence en qualité de consul, il y connut Madame de Sénonches, alors Mademoiselle Zéphirine, et il en eut une fille, dit Cointet tout bas à l'oreille de son interlocuteur. « Oui, reprit-il, en voyant faire un haut-le-corps à Petit Claud, le mariage de Mademoiselle Zéphirine avec Monsieur de Sénonches a suivi promptement cet accouchement clandestin. Cette fille, élevée à la campagne, chez ma mère, est Mademoiselle Françoise de la Haye, dont prend soin Madame de Sénonches, qui, selon l'usage, est sa marraine. Comme ma mère, fermière de la vieille Madame de Cardanet, la grand-mère de Mademoiselle Zéphirine avait le secret de l'unique héritière des Cardanet et des Sénonches de la branche aînée, on m'a chargé de faire valoir la petite somme que M. Francis du Hautoy destina dans le temps à sa fille. Ma fortune s'est faite avec ses 10 000 francs, qui se montent à 30 000 francs aujourd'hui. Madame de Sénonches donnera bien le trousseau, l'argenterie et quelques mobiliers à sa pupille. Moi, je puis vous faire avoir la fille, mon garçon, dit Cointet en frappant sur le genou de Petit Claud. En épousant Françoise de la Haye, vous augmenterez votre clientèle de celle d'une grande partie de l'aristocratie d'Angoulême. Cette alliance par la main gauche vous ouvre un avenir magnifique. La position d'un avocat avoué paraîtra suffisante. On ne veut pas mieux, je le sais. Que faut-il faire ? Dit avidement Petit Claud. Car vous avez maître Cachan pour avoué. Aussi ne quitterai-je pas brusquement Cachan pour vous. Vous n'aurez ma clientèle que plus tard, dit finement le grand Cointet. Ce qu'il faut faire, mon ami, les affaires de David Séchard. Ce pauvre diable a 1000 écus de billets à nous payer. Il ne les paiera pas. Vous le défendrez contre les poursuites de manière à faire énormément de frais. Soyez sans inquiétude, marchez, entassez les incidents. Doublon, mon huissier, qui sera chargé de l'actionner, sous la direction de Cachan, n'ira pas de main morte. À bon écouteur, un mot suffit. Maintenant, jeune homme ? Il se fit une pause éloquente pendant laquelle ces deux hommes se regardèrent. « Nous ne nous sommes jamais vus, » reprit Cointet. « Je ne vous ai rien dit. Vous ne savez rien de Monsieur du Hautois, ni de Madame de Sénonches, ni de Mademoiselle de La Haye. Seulement, quand il en sera temps, dans 2 mois, vous demanderez cette jeune personne en mariage. Quand nous aurons à nous voir, vous viendrez ici, le soir. N'écrivons point. « Vous voulez donc ruiner Séchard ?» demanda Petit Claud. « Pas tout à fait, mais il faut le tenir pendant quelque temps en prison. Et dans quel but ? Me croyez-vous assez niais pour vous le dire ? Si vous avez l'esprit de le deviner, vous aurez celui de vous taire. » « Le père Séchard est riche, » dit le Petit Claud, en entrant déjà dans les idées de Boniface et apercevant une cause d'insuccès. « Tant que le père vivra, il ne donnera pas un liard à son fils. Et cet ex-typographe n'a pas encore envie de faire tirer son billet de mort. »« C'est entendu, » dit Petit Claud qui se décida promptement. « Je ne vous demande pas de garantie, je suis avoué. Si j'étais joué, nous aurions à compter ensemble. » Le drôle ira loin, pensa Cointet en saluant Petit Claud.